Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, 17h30 GMT, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 mars 2017. John Lydon en direct de Washington. Au sommaire ce soir, l'Afrique du Sud convoquée par la CPI, le pays qui vient de suspendre son retrait de cette institution, avait refusé d'arrêter le président soudanais il y a 2 ans. En RDC, 3 fosses communes découvertes dans le Kasaï central. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelle à une enquête. Retour ce soir sur l'inculpation du maire de Dakar pour détournement présumé des biens publics. Ici aux États-Unis, retour sur WikiLeaks qui affirme avoir publié des programmes secrets d'espionnage de la CIA. Et puis les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030. C'est sous ce thème qu'est placée la Journée internationale de la femme ce 8 mars. Et nous terminerons avec Nicolas Pinot en sport et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. 3 fosses communes ont été découvertes dans le centre de la République démocratique du Congo où des centaines de personnes ont été tuées depuis juillet dernier dans des affrontements entre les forces de sécurité et une milice locale. C'est l'ONU qui l'a révélé aujourd'hui, Michel Joseph.
Au moins 400 personnes sont mortes et 200 000 ont été déplacées depuis le début des combats contre la milice Kamuina Nsapu. La police a tué son leader en août dernier, provoquant une escalade de la violence. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté le Conseil des droits de l'homme à Genève à établir une commission d'enquête afin, dit-il, de faire la lumière sur les rapports récents de violations graves et la découverte de 3 charniers. Zaïd Raad Al-Hussein n'a donné aucun détail sur ces fosses communes lors de son discours au Conseil qui a abordé la situation des droits humains dans des dizaines de pays. Le Bureau des droits de l'homme en RDC ne pouvait pas non plus fournir d'autres précisions. Quant à la ministre congolaise des droits de l'homme, elle a déclaré à Reuters qu'elle n'était pas en mesure de commenter les propos de M. Zaïd dans l'immédiat. Le gouvernement congolais enquête sur les allégations similaires, y compris de présumées exécutions sommaires impliquant ses forces armées, mais a rejeté les offres de soutien du bureau onusien en RDC, qui l'accuse de partialité.
La Cour pénale internationale a convoqué l'Afrique du Sud le 7 avril pour s'expliquer sur son refus d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir lors d'une visite qu'il a effectuée dans le pays il y a 2 ans. Cette convocation intervient alors que Pretoria vient formellement d'annuler sa décision controversée de claquer la porte de la CPI. Jacques Aristide.
Cette annulation est toutefois temporaire, le temps pour le gouvernement sud-africain de se conformer au jugement de la Haute Cour de Pretoria qui a invalidé le 22 février dernier l'instrument de retrait déposé à l'ONU parce qu'il n'avait pas été précédé d'un vote du Parlement. Mais un projet de loi de retrait doit être déposé prochainement devant les députés sud-africains. En fait, Pretoria exprime son intention de quitter la CPI depuis fin 2015, après des critiques pour ne pas avoir exécuté le mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar El-Béchir, accusé de génocide et de crimes de guerre. Une haute responsable du gouvernement, Ayesha Johar, a déclaré aujourd'hui que la convocation des autorités sud-africaines par la CPI concernait donc le non-respect du pays de ses obligations en tant qu'État membre. Plusieurs pays africains reprochent à ce tribunal international basé à La Haye de concentrer ses efforts sur l'Afrique.
L'ONG des défenses et de l'environnement Earth Life Africa a remporté mercredi en Afrique du Sud sa première victoire judiciaire dans un dossier lié au changement climatique en forçant le gouvernement à produire une nouvelle étude d'impact pour la construction d'une centrale à charbon. Un tribunal de Pretoria a donné raison à Earth Life Africa en ordonnant au ministère de conduire une étude d'impact environnemental complète avant que la première pierre de la centrale ne soit posée. Les juges français ont adressé au Sénégal une demande pour que Papa Massata Diack soit entendu dans l'enquête pour corruption qui vise son père Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial, mais ils se sont heurtés à un refus de Dakar, a-t-on appris mardi de sources judiciaires. Au cours de l'enquête, Papa Massata Diack est visé par un mandat d'arrêt international des juges d'instruction, mais le Sénégal avait fait savoir qu'il ne l'extraderait pas. Soupçonné d'avoir eu un rôle dans la retentissante affaire de corruption pour masquer des cas de dopage d'athlètes russes, il a de nouveau été visé par des révélations du journal Le Monde en date du 4 mars sur une possible corruption en 2009 autour de l'attribution des JO 2016 à Rio. Toujours au Sénégal, nous reviendrons à Parti Magazine sur l'inculpation du maire de Dakar, Khalifa Sall, et de 5 de ses collaborateurs pour détournement présumé de fonds publics. Selon les avocats de M. Sall, cette arrestation vise à l'écarter des prochaines élections. Plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté mercredi dans les rues de Boaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, située dans le centre du pays après le meurtre d'entre eux, mardi en plein jour, des suites d'un braquage. Des ONG internationales et locales ont exhorté mercredi le Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit discuter jeudi de la crise burundaise, à prendre des sanctions ciblées contre les responsables de violations des droits de l'homme dans ce pays des Grands Lacs. De telles mesures, notamment des interdictions de voyage et le gel des avoirs, enverraient un message fort aux dirigeants burundais ayant été peu inquiétés pour avoir continué de perpétrer de violents abus contre leur propre population, ont affirmé 19 ONG.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Près de 40 personnes ont été tuées aujourd'hui et une cinquantaine d'autres blessées dans une attaque contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan. L'hôpital situé au centre de Kaboul a été pris d'assaut par un commando d'insurgés islamistes déguisés en médecins. Les précisions avec Dili Diko.
Selon le porte-parole du ministère afghan de la Défense, le général Daud Waziri, la plupart des victimes étaient des patients, des médecins et des infirmiers. C'est à 9h que la première explosion a retenti, déclenchée par un kamikaze à l'entrée arrière de l'établissement, ouvrant la voie aux commandos. Ce n'est que 6h après le début de l'assaut, en milieu d'après-midi à Kaboul, que les forces spéciales afghanes déposées en hélicoptère sur le toit de l'hôpital ont pu mettre fin au cauchemar des patients et des soignants. Pris sous le feu de 4 assaillants, tous tués par les forces de l'ordre, l'hôpital de 400 lits et ses occupants ont vécu une journée de terreur ponctuée de détonations et de tirs d'armes automatiques qui ont laissé les salles de soins noyées de sang. Le groupe État islamique a revendiqué sur sa messagerie cryptée Telegram cette opération, alors que les talibans afghans ont démenti toute implication sur Twitter.
La Journée internationale de la femme est placée cette année sous le thème de leur place dans le travail, une journée pour tenter de faire avancer les causes de femmes. Occasion aussi de mettre en avant les combats féministes menés un peu partout dans le monde. État des lieux, Saloua Jafari.
Pour les femmes, le combat est permanent. Droit à l'avortement, droit de conduire, de voter ou tout simplement droit au respect dans des sociétés au développement desquelles elles contribuent, les femmes ont encore du chemin à faire. Les inégalités demeurent. Selon les chiffres de l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 23% au moins que les hommes. La violence faite aux femmes perdure elle aussi. L'Organisation mondiale de la santé estime que le pourcentage de femmes victimes d'abus physiques ou sexuels commis par un membre de la famille varie entre 15% au Japon et 71% en Éthiopie rurale. L'ONU a choisi cette année comme thème la place des femmes dans le monde du travail et évoque une planète dans laquelle la moitié des femmes aura un emploi d'ici 2030. Et pour la première fois, le 8 mars, les femmes ont décidé de se mobiliser de manière coordonnée dans 50 pays et dans les 5 continents pour célébrer un jour sans femmes. Une grève planétaire pour mettre fin à la violence sociale, légale, politique, psychologique et verbale que les femmes subissent sous différentes latitudes.
Le président du Conseil européen, Donald Tusk, devrait être réélu à son poste dès jeudi grâce au soutien écrasant des États membres de l'UE, malgré le candidat rival proposé par son pays d'origine, la Pologne, a assuré mercredi un responsable allemand. En France, le parquet de Paris a demandé un procès pour Bernard Tapie et 5 autres personnes, dont l'enquête sur l'arbitrage controversé qui a permis à l'homme d'affaires de toucher 404 millions d'euros pour régler un vieux litige avec la Banque Crédit Lyonnais, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires. Le parquet requiert que les 6 protagonistes de ce scandale politico-financier soient renvoyés devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée. Et puis le premier grand test des talents de négociateur politique de Donald Trump a commencé. Le président américain doit cajoler l'aile droite de la majorité républicaine qui a des velléités de fronde dans l'épineuse réforme du système de santé. Tous les républicains sont d'accord pour abroger Obamacare, la réforme de 2010 emblématique de la dérive de Obama. Voilà pour le journal. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
La forte chute des cours mondiaux du cacao pourrait provoquer de fortes tensions sociales en Côte d'Ivoire, le premier producteur mondial. La filière française du commerce équitable s'inquiète des répercussions injustes pour les petits producteurs. La chute des cours est une bombe sociale, selon Joël Stoll, délégué général de la plateforme française du commerce équitable, qui fédère les acteurs de la filière. Des centaines de containers sont bloqués, invendus, dans le port d'Abidjan. Le cours du cacao est tombé la semaine dernière à New York, à son cours le plus bas en 8 ans et demi. Le début de l'année 2017 est positif pour le tourisme en Tunisie, selon les chiffres de l'ONTT, l'Office national du tourisme tunisien. Le nombre de touristes a augmenté de 19,8% en janvier et de 38% en février par rapport à l'année précédente. Après les attentats de 2015, le tourisme reprend peu à peu. Les tendances pour l'été sont positives, se réjouit Neji Ben Othman, le directeur adjoint de l'ONTT. L'impact de la baisse des matières premières sur la croissance de l'Afrique inquiète la BCA, l'Association des banques centrales africaines. C'est ce qu'a déclaré son président, Godwin Emifiele, à l'ouverture de la dernière réunion de cette association qui regroupe 39 banques centrales africaines. La BCA va proposer une série de solutions pour tenter de juguler le phénomène.
À laquelle vous êtes désormais habitué, c'est le sport avec Nicolas Pineau qui fait son entrée dans ce studio. Nicolas Pineau, bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Ibenge arrête avec les Léopards de la RDC.
Florent Ibenge ne prolongera pas son contrat en tant que sélectionneur principal des Léopards de la RDC. Il n'entraînera pas non plus la sélection locale au CHAN 2018. Le technicien congolais l'a fait savoir ce mercredi à nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Et la nouvelle suscite de nombreux commentaires sur place. Les détails avec Thierry Kambundi.
Florent Ibenge a annoncé en effet qu'il ne prolongera pas son contrat à la tête du staff technique des Léopards de la RDC qui s'achève fin 2018.
Cette poussée médiatique un petit peu surréaliste par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que quand on regarde bien, on a été battu contre le Ghana, mais on a fait une année 2016 sans défaite et on a perdu un match et on dirait que c'était la catastrophe mondiale. J'ai un contrat et je l'ai dit que j'allais pas le renouveler.
Nommé sélectionneur en août 2014, Ibenge a fini troisième à la CAN 2015 avant de remporter le championnat d'Afrique des Nations l'année suivante au Rwanda. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Et oui, le Barça va tenter l'impossible. 19h45, temps universel. Barcelone doit éviter de devenir fou et procéder avec patience ce mercredi pour tenter de remonter 4 buts de retard face au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a dit hier en conférence de presse Luis Suarez, qui juge que ce défi est difficile, mais pas impossible. Dortmund, de son côté, devra rattraper un but de retard face au Benfica Lisbonne.
Le Real et le Bayern sont déjà en quart de finale de la Ligue des Champions.
Déjà vainqueur à l'aller 3-1, le Real s'est imposé sur le même score à Naples et prend donc le chemin des quarts de finale, une 7e fois d'affilée, un record. 5-1 également, l'autre défaite d'Arsenal qui a été battu sur le même score qu'à l'aller par le Bayern de Munich. Une débâcle et une désillusion de plus pour Arsène Wenger.
Et demain, les 8e de finale de l'Europa League.
Manchester United et José Mourinho vont défier Rostov demain lors des 8e de finale. Choc germano-allemand entre Schalke 04 et Mönchengladbach. En Belgique aussi se tiendra un derby national entre la Gantoise et Genk. Également l'opposition entre Lyon et l'AS Rome.
Le Brésilien Roberto Bianchi a été nommé au poste des sélectionneurs de l'équipe nationale angolaise de football.
Âgé de 50 ans, Bianchi entraînait depuis l'an dernier l'équipe du Petro de Luanda, le club de la compagnie nationale de pétrole angolaise Sonangol, dirigé par Isabel dos Santos, la fille de l'actuel président angolais. Bianchi est le 4e Brésilien à diriger l'équipe d'Angola. Il remplace José Quilamba, coach intérimaire depuis 2015.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. On passe à présent au dossier du jour et on commence par la RCA. Conditions de vie critiques des personnes déplacées du site de PK3 à Bria, fuyant les violences dans le centre-est de la RCA. Elles sont plus de 10 000 à trouver refuge dans ce camp de fortune. Reportage de Freeman Sipila.
Pas de nourriture, pas de soins adéquats, des huttes parfois à moitié construites. Plusieurs centaines de familles vivent dans la précarité. Les enfants recouverts de poussière traînent au sol, certains quasiment nus. Cette femme a fui son village de Lafolo à une quarantaine de kilomètres de Bria sur l'axe Ipi.
Les combats ont atteint les villages de Mbrutu, Gopudo et Lafolo sur l'axe Ipi. Ils ont brûlé des gens dans leurs maisons. C'est ce qui nous a obligés à fuir avec les enfants. Nous avons fait toutes ces distances à pied. Les enfants ont beaucoup souffert.
Depuis leur attroupement fin novembre 2016 dans ce camp de fortune installé aux alentours de la base locale de la MINUSCA, ces déplacés n'ont reçu que quelques kilos de riz et du sel. La distribution a été faite par l'ONG Espérance, une organisation locale. Maurice, père de 6 enfants, trouve insignifiante la quantité des vivres distribués.
Vraiment, ici, là, on ne peut pas trouver quelque chose pour manger. On a beaucoup souffert ici.
Du côté des ONG, vous n'avez pas reçu d'aide?
C'est insuffisant. Carrément, c'est insuffisant. Les gens ne peuvent pas trouver pour 2 ou 3 jours. Par exemple, le riz, là, les gens, ils vont donner un petit saut. Vraiment, ça, là, ça suffit jamais.
Voilà le maître qui s'avance, sans perdre du temps. Mettez-nous à...
Alors, récitation, savez-vous compter?
Pour sauver l'éducation des enfants, une école est créée sur le site. Elle est dénommée école d'urgence. Elle accueille 896 élèves. Azuko Ndoro, le directeur.
Nous sommes ici, il y a des enfants qui sont déplacés sur l'axe Ipi, et puis ils sont venus sur... Il y a 3 hangars avec des bâches qu'on a fait. Nous faisons l'école jubilée. Il y a des maîtres qui viennent dans l'après-midi et puis il y a d'autres qui viennent à 7h30 et puis ça termine à 12h. C'est l'idéal qui prend en charge. On a fait déjà 2 mois et 15 jours aujourd'hui. Nous n'avons pas encore eu notre salaire.
Les affrontements meurtriers opposant le FPRC à l'UPC, deux factions de la rébellion ex-Séléka, fin 2016 et début 2017 à Bria et dans les villages périphériques, ont provoqué le déplacement de plus de 20 000 personnes. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la voie de l'Amérique.
Le maire de Dakar et 5 de ses collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt mardi pour détournement présumé de fonds publics. Les partisans de M. Sall dénoncent un coup de force visant à l'écarter des prochaines élections alors que la majorité présidentielle parle d'un litige purement juridique. Sedina Abagé, correspondant à Dakar.
Les partisans de Khalifa Babacar Sall se disent meurtris par l'incarcération de leur leader. Babacar Diop, coordonnateur national du mouvement politique ADK, est membre du cabinet du maire de Dakar.
Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est que tous les voleurs qui veulent vraiment s'en sortir, ils n'ont qu'à se rallier au parti présidentiel et vraiment tout est nickel chez toi. Le malheur aujourd'hui, être intègre, avoir des vertus et des valeurs, n'a plus de sens au Sénégal.
Du côté de la majorité présidentielle, on estime que cette affaire n'a rien de politique. Abdou Mbow, vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint du parti au pouvoir.
Les corps de contrôle de l'État, plus précisément l'IGR, a séjourné pendant 18 mois au niveau de la mairie de Dakar. Ils ont produit un rapport et ce rapport a été transmis au président de la République. Le président de la République l'a transmis au gouvernement et comme seule recommandation au niveau du rapport, le procureur nous l'a dit, c'était d'ouvrir une information judiciaire. Ce que les autorités judiciaires ont fait quand le Premier ministre a transmis le rapport.
Les partisans du maire de Dakar affirment eux que les inspecteurs généraux d'État n'ont jamais épinglé l'édile de la ville.
Aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils l'ont épinglé ont fait des investigations audites durant 18 mois sans trouver quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils le suivent pour des fonds politiques qui n'existent nulle part.
Le porte-parole du parti au pouvoir persiste et donne des preuves de la véracité des accusations à l'encontre du maire de Dakar.
Des factures fausses ont été produites et vous avez entendu la secrétaire qui a produit les papiers et le magasinier dire que ce sont des fausses factures pour justifier l'utilisation de ces fonds. Ceci n'enlève en rien qu'ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence.
Au Sénégal, l'emprisonnement de Khalifa Sall est perçu par certains comme une cabale politique visant à écarter l'un des plus sérieux adversaires du président Macky Sall. Mais le camp du chef de l'État rejette toujours ces accusations. À Dakar, pour la Voix de l'Amérique, Sérina Abagay.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
États-Unis à présent, Wikileaks a publié près de 9000 documents présentés comme provenant de la CIA, estimant qu'il s'agissait de la plus importante publication de matériel secret du renseignement jamais réalisé. Le site met en garde contre le risque d'une prolifération des armes informatiques ainsi exposées. Pour décrypter ces révélations du site créé par Julien Assange, Tatiana Mosso a joint Basile Nyong, directeur des BCCA Networks en technologie à Washington.
Parcourir les documents, ça prendra énormément de temps. Vérifier s'ils sont authentiques, ça va être compliqué parce qu'il s'agit là de technologies de pointe. Et seule la CIA peut, ou les services de renseignement peuvent certifier que ce qui est dit est vrai, puisque ce ne sont pas des techniques répandues dans le public.
Est-ce que Wikileaks, qui a reçu elle-même une partie et qu'elle a décidé de rendre publique, est-ce que la CIA, pour l'instant, a réagi et comment ?
Une agence aussi importante que la CIA ne peut pas suivre Wikileaks pour réagir à tout ce que Wikileaks dit. Si un jour la CIA doit se prononcer, à mon avis, ce sera devant le Congrès, mais pas dans le public, pas suivre une structure comme Wikileaks qui dit disposer de documents, même s'ils exposent les documents, tout ce qui sera dit dedans n'a rien à voir avec l'activité qu'ils dénoncent. Parce que l'activité qu'ils dénoncent est plus logicielle que manuscrite.
Alors justement, selon toujours ce site, ces documents montrent que l'agence de renseignement a élaboré plus d'un millier de programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels pouvant soi-disant infiltrer et prendre le contrôle d'appareils électroniques. Est-ce que c'est possible selon vous ?
C'est possible. Toute structure de renseignement qui a à cœur de protéger un pays donné est obligée d'être d'abord la pointe de la technologie logicielle et être obligé d'écouter par tous les moyens tout ce qui peut nuire à la sécurité de ce pays. Et ce qui est dit est possible. Je ne pense pas que les États-Unis soient si cela est vrai, que les États-Unis soient le seul pays à le faire. Je pense que toutes les puissances de la planète ont les mêmes attitudes. Il faut protéger la sécurité nationale et tous les moyens sont bons pour le faire. Je voulais juste dire ici qu'on vous parle souvent des objets connectés. Mais les objets connectés, c'est réellement, pour toute structure de renseignement, c'est le meilleur gâteau qu'on puisse leur offrir pour pouvoir accomplir leur rôle d'information, d'écoute et de traque.
Alors justement, la célèbre agence est par ailleurs accusée par Donald Trump, comme les autres agences de renseignement américaines d'ailleurs, de faire fuiter des informations suggérant que certains de ses proches ont eu des contacts l'an dernier avec le renseignement russe. Quelle crédibilité accorder aux agences de renseignement, même si Donald Trump, qui est désormais le président et qui est censé avoir des débriefs de toutes ces agences-là, même si lui, aujourd'hui, les accuse et met à mal leur fiabilité.
Les agences de renseignement sont si puissantes, les services secrets sont dans une telle attitude de recherche d'informations que tout le monde a peur de se sentir suivi, espionné, etc. Moi, j'appelle ça un peu l'espionnage. Tout le monde pense qu'on est suivi. Les gens n'ont pas le temps de suivre tout ce monde-là parce qu'ils ont énormément à faire.
Il s'agissait donc de cet élément de Tatiana Mosso, Basile Nyong.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on célèbre la Journée internationale des femmes avec un focus sur l'évolution des femmes dans le monde du travail. L'occasion de dresser le bilan des progrès réalisés, de revenir sur le courage et la détermination de femmes ordinaires ou non qui jouent un rôle dans l'histoire de leur pays et de leur communauté. Quelle place pour les femmes au cœur de la mondialisation et des révolutions technologiques? Quelles sont les nouvelles opportunités? Où en est leur autonomisation économique en Afrique? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Maintenant, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous vous proposons une série de reportages avec nos correspondants en Afrique. Rendons-nous au Mali où notre correspondant Kassim Traoré nous parle de Maïmouna Hélène Diarra. Très connue du public malien et africain, elle a joué dans presque tous les grands films du Mali, de célèbres pièces de théâtre comme Wari 1 et 2. Pur produit du groupe dramatique Koteba National du Mali, Maïmouna Hélène Diarra a été la lauréate du prix des célébrités du cinéma lors de la 25e édition du FESPACO. De Bamako, Kassim Traoré.
Née dans les années 60 à Ségou, issue d'une grande famille chrétienne, c'est après les études primaires qu'elle arrive à Bamako pour poursuivre ses études à l'Institut National des Arts, INA, la section art dramatique.
Ben, je suis Maïmouna Hélène Diarra, comédienne malienne, sino-africaine. Bon, je suis passée par beaucoup de chemins après l'INA. J'étais au groupe dramatique et j'ai passé 10 ans sur le plancher. Et après le groupe dramatique, je suis venue à l'ORTM, à la télé et à la radio. Speaker, Bambara, les avisés communiqués en français en Bambara, les émissions à la télé et à la radio. Sans oublier les sketchs, les films, les théâtres. Parce que avec tout ça, même arrivé à l'ORTM, je n'ai pas décroché avec ma vie de comédien.
Comme Habib Dembélé dit Guimba National, Michel Sangaré, Magma Gabriel Konaté, Fanta Berthe et autres, Maïmouna Hélène Diarra est un pur produit du Koteba National du Mali, qui a fait les plus célèbres pièces de théâtre du Mali.
Les théâtres, les films, le cinéma, la radio, la télévision. Tout ça là, c'est des trucs que j'ai aimés. J'ai pas eu à faire le choix. J'ai aimé le tout. La radio, la télévision, la scène, le plateau de cinéma. Jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'un comédien n'a pas d'âge. À la radio peut-être, mais la radio, la télévision, parce que présentement, je suis à la retraite. J'ai continué à tourner. Tant que les réalisateurs ont besoin de moi, moi je le fais. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour les comédiens.
Maïmouna Hélène Diarra draine derrière elle une carrière de 30 ans. Après avoir joué dans presque tous les films du Mali, elle donne des conseils à la nouvelle génération de comédiens.
Le travail bien fait, prendre le travail au sérieux, aimer ce que tu fais, c'est ça la clé du succès. La nouvelle génération qui monte vraiment, il faut qu'ils s'améliorent, qu'ils soient formés et écouter les anciens. Ils ne sont pas trop mûrs pour voler seul. Quoi. Dans l'art, on apprend toujours que Dieu fait, tous les jours que Dieu fait, tu apprends. Il faut accepter les critiques. Tant que tu n'acceptes pas les critiques, tu ne peux pas te corriger. Tant que toi, tu es sur scène, tu ne te vois pas. C'est les autres qui te voient. Et quand ils te disent que ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est ce qui est la réalité.
Hélène, comme l'appellent ses intimes, pense que les jeunes doivent faire la part des choses entre le théâtre, la comédie, l'humour et les acteurs de cinéma.
Des fois, il y a des sketchs là où ça, c'est le top, mais des fois, ça descend. Et c'est à toi de voir. Prochainement, tu diras, ah, je ferai tout pour monter, pour surmonter. Bon, ça dépend des genres de sketchs aussi. Il y a des sketchs qui sont vraiment intéressants, les thèmes. Moi, par exemple, vous me demandez de faire One Man Show, je ne peux pas. Je peux me métamorphoser. Ça, je peux bel et bien le faire. Il y a les humoristes, il y a les comédiens, il y a les acteurs. Donc, il faut savoir faire la différence entre les gens.
Maïmouna Hélène Diarra est la seule comédienne malienne a décroché le prix de la célébrité du cinéma lors du FESPACO 2017. Ce prix a été initié cette année par les organisateurs du FESPACO pour faire un clin d'œil aux comédiens et autres acteurs du cinéma.
Ça va droit dans nos cœurs. Et ça nous a enchantés. Ça a démontré que ce que nous faisons, ce n'est pas du temps perdu. Ils pensent encore à nous. Et ça, c'est venu un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Mmh. Voilà, on est vraiment enchantés.
Alors, ces prix-là, ça veut dire que vous devrez continuer.
Bien sûr, même sans prima, je vais continuer. Le théâtre, le cinéma, c'est ma vie.
L'enfant de Ségou fait aussi la teinture, la transformation des produits agricoles. Elle vend les meilleurs gingembre du Mali en jus et en poudre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Lionel Gaïma, assisté des CIM. Nachouan Kale était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Bonsoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.